Brasero, Brassage Radio. J'ai été rabaissé, humilié, dénigré, écrasé, discrédité, harcelé, cancelé, méprisé, insulté et blessé. Tu peux toujours tenter de me museler, rien ne pourra jamais m'arrêter, comme dit si bien la chanteuse Mathilde.
Il y a un an, et oui, on prend le temps à Brasero, une journée d'autodéfense féministe était organisée à La Chapelle. Ce fut l'occasion d'y inviter Mathilde Bléza pour la sortie de son dernier livre pour l'autodéfense féministe, de rencontrer des animatrices d'autodéfense, des participantes à des stages.
Apprendre à connaître ses limites, à se rendre compte qu'on met en place plein de choses sans le savoir vraiment, qu'on a de la force en nous qui peut vraiment faire la diff, c'est franchement chouette. Et ça fait un bien fou.
Alors, on a eu envie de vous transmettre tout ça par la radio, de vous donner de la force, comme ce qu'on a pu ressentir, que ce soit lors de cette journée et même pendant les manifs féministes.
Bonne écoute!
Apprendre à répondre au harcèlement de rue a été un long chemin. Tissé de honte, d'hésitation, de force et de courage. Je me souviens du début de l'histoire, des premiers klaxons venant des camions sur la grande route qui traversait ma ville. J'avais 13 ans et j'entrais à peine dans la puberté. Je ne ressemblais pas encore totalement à une femme, mais j'étais coquette et j'aimais me faire jolie. C'est le moment où des hommes de tous âges ont commencé à me cracher leurs commentaires à la gueule. J'avais 13 ans quand les regards, sifflements et insultes ont commencé. Encore enfant, je ne comprenais rien de ce qui se jouait dans ces interactions, ni pourquoi ces hommes me parlaient mal, ni ce que je ressentais à l'intérieur. Le doute, l'inhibition soudaine, le gouffre de honte. Mince, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est mes cheveux? Mes vêtements? Mon attitude? Écrasée par la honte, je continuais mon chemin en veillant à ce que ma démarche ne trahisse pas mon profond malaise. Et je priais pour que le groupe de mecs posés 10 mètres plus loin m'épargne. Je n'oublie pas la phrase prononcée par une copine 2 ans plus tard, on avait 15 ans, à un automobiliste qui nous klaxonnait. Elle lui a lancé « Hé, on n'est pas du jambonneau !» La formule peut prêter à sourire. Mais à l'époque, elle m'a percuté tout sec. Avant ça, je n'avais pas envisagé qu'on puisse retourner le viseur, refuser, faire face. Il m'a fallu encore 2 ans avant de trouver la force de répondre à mon tour. J'avais 17 ans et lui, la 60aine. Il me scrutait depuis le bout de la rue et je n'avais pas envie de changer de trottoir. J'avançais vers lui, et la boule dans mon ventre prenait de plus en plus de place. Je ne savais pas où poser mon regard, ni que faire de mon corps que je savais observer. Arrivé à son niveau, j'ai entendu qu'il m'avait fait une remarque. J'ai puisé au plus profond de mes forces, et je lui ai répondu un truc genre « Ta gueule, connard !» J'imagine que le mec n'en était pas à son coup d'essai et qu'il est rapidement passé à autre chose. Moi, je n'oublierai jamais le sentiment de puissance qui m'a gagné tout entière à ce moment-là. Aujourd'hui encore, je peux ressentir la chaleur qui m'a envahi. C'est comme prendre une grande inspiration, me faire un gros câlin à moi-même. Comme se débarrasser du kilo de boue que le patriarcat nous envoie chaque jour dans la face. L'apprentissage de l'autodéfense, ça pourrait ressembler à une jolie histoire, mais il n'en est rien. Parce que se battre pour défendre ta dignité dans la rue, c'est littéralement épuisant. C'est être en hypervigilance H24 dès que tu sors, te prendre la tête sur ce que tu aurais pu répondre, ou bien anticiper ce que tu feras la prochaine fois. Bref, on est loin de pouvoir se balader de manière insouciante comme le font les gars. Cela dit, je me fais beaucoup moins emmerder depuis que j'ai passé la trentaine, ce qui m'étonne pas au fond, mais qui me rassure pas trop. Et comme j'arriverai pas à finir ce texte sur une note positive, autant continuer dans le registre et chier sur les politicards qui instrumentalisent la question du harcèlement de rue au service d'un ordre raciste et sécuritaire, qui foutent des caméras partout au nom de la sécurité des femmes et dont on apprend plus tard dans la presse qu'ils ont agressé ou violé. À bas le patriarcat et vivement la révolution féministe.
Elle est à nous !
Militante et formatrice d'autodéfense féministe au sein de l'association Faire Face.
Et moi, je suis Jen et entre autres, j'anime aussi des ateliers et des stages d'autodéfense féministe avec Faire Face.
Pour nous, l'autodéfense féministe, ça va être tout ce qu'on peut mettre en place pour se mettre en sécurité, augmenter notre confiance en soi, prévenir la violence avant qu'elle ne subvienne et se défendre. Notre postulat, c'est qu'on a le droit de vivre sans violence et que si on vit de la violence, des agressions, on a le droit de s'en défendre, quelle qu'elle soit, auprès de quiconque.
L'autodéfense féministe, c'est la création d'espaces collectifs où on va partager des stratégies, des outils d'autodéfense, que ce soit au niveau psychologique, verbal, physique, émotionnel, en groupe, entre personnes concernées par les violences de genre. Et ces espaces collectifs permettent de prendre conscience des ressources qu'on peut avoir, le fait de prendre conscience qu'on fait toutes de l'autodéfense au quotidien pour se remettre en confort et en sécurité. Et du coup, prendre conscience, visibiliser, identifier les ressources qu'on a déjà, en identifier d'autres, ouvrir les chemins des possibles qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour se défendre au quotidien dans tous les espaces de la vie, que ce soit privé, public, professionnel, avec des personnes connues, inconnues. Voilà, donc l'autodéfense féministe, beaucoup espace collectif où on prend de la force et on se partage de l'énergie, des outils pour ressortir avec plus de confiance, de se sentir plus légitime et plus capable de se défendre et de stopper, de faire cesser les agressions, alors qu'on est dans une société qui nous fait plutôt penser le contraire, qu'on n'est pas capable de se défendre seul, surtout si on a été socialisé comme une fille ou une femme cisgenre. Du coup, l'autodéfense, c'est contrecarrer ça pour désapprendre à pas se défendre et réapprendre à se défendre.
Et du coup, est-ce que vous pouvez me dire un peu ce que c'est que cette journée d'aujourd'hui là, autour de l'autodéfense féministe ?
C'est une journée où on a saisi un peu l'occasion de la publication du livre de Mathilde Blaisard, donc pour l'autodéfense féministe, qui est un des rares, des peu ouvrages qui traitent de l'autodéfense féministe et qu'on était très contente de voir sortir. Donc, avec la proposition d'amis, de collègues, de faire venir l'autrice et de pouvoir échanger autour du livre, on s'est dit que ça pouvait être chouette entre différents assos, différents collectifs, d'organiser une journée plus large où on allait discuter autour de livres et aussi interpeller les différents assos, collectifs qui pratiquent différentes formes d'autodéfense sur Toulouse. Et donc, il y avait le planning familial.
Échappe, Cap d'Agir, Wikaya,
Faire face.
Bras zéro.
Donc, toute une série de collectifs et d'assos qui œuvrent et qui ont saisi cette occasion pour célébrer l'autodéfense féministe ensemble.
Dans le cadre de cette journée, il y avait un atelier dit de renforcement d'organiser, c'est ça, si je ne me trompe pas. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire deux, trois mots? C'est quoi cet atelier?
C'était un atelier de révision des armes. Ah. Enfin, après, renforcement, c'est très bien. Mais simplement, l'idée, c'était de proposer à des personnes qui ont vécu déjà des ateliers d'autodéfense féministe, bon, et ou éventuellement des personnes qui découvraient, mais de revoir des techniques, des stratégies, des coups d'autodéfense physique, sachant que quand on parle d'autodéfense physique, c'est nécessairement lié dans une approche à aussi tous les outils de pose de limite, tous les outils de verbaux et non-verbaux. Mais donc voilà, c'était un atelier de révision de certains coups et de certaines stratégies d'autodéfense physique.
Du coup, on a fait un atelier de révision parce que c'était la possibilité dans cet espace-là, dans un grand espace, un collectif plus grand, un dispositif particulier qui n'est pas celui qu'on a en atelier ou en stage classique de transmission, de combinaison des différentes formes d'autodéfense et dans un groupe limité pour pouvoir permettre que chaque personne prenne sa place et puis puisse partager que ce soit des stratégies, des outils, autodéfense psychologique, verbale, émotionnelle, physique. Donc adapter un format qu'on puisse pratiquer à plein, à beaucoup, dans une salle. Et du coup, voilà, ça a pris cette forme de révision et surtout autour des armes physiques et des outils non-verbaux. C'était faisable comme ça.
Il y a aussi le fait que pour nous, c'est chouette aussi de pouvoir faire ça parce qu'on a un peu l'occasion, il y a une frustration à n'avoir des ateliers. Avoir des ateliers de base, mais où on n'a pas les forces humaines de faire du renforcement, des entraînements mensuels, etc. Donc, pour nous, c'était aussi une occasion de pouvoir faire quelque chose à partir du vécu déjà de l'autodéfense, donc de revoir des coups, des personnes qui auraient déjà vécu des ateliers.
Et dans un format accessible, du coup, de réactiver des déclics pour les personnes qui ont déjà pu vivre des stages ou des ateliers sur un temps court et un temps voilà, et accessible et gratuit et organisé pour ça, du coup réactiver des déclics et ou en créer, parce qu'il y a aussi des personnes qui ont participé et qui n'avaient peut-être jamais participé à des ateliers ou à des stages, mais qui étaient bienvenues et à qui on a voilà, précisé que ce que les personnes vivaient n'était pas un atelier au complet, mais une révision, et que, du coup si ces personnes ont envie d'aller plus loin, peuvent revenir vers nous, quoi.
Elles ont goûté, elles ont pris un tapas d'autodéfense.
Regard perce celui de celle qui se tient à quelques centimètres.
Glaçant, il n'oscille pas. Sur une profonde inspiration, son corps semble s'irriguer tout entier d'une colère froide, maîtrisée, tournée vers un but, un unique objectif. Un silence grave s'est abattu sur la salle du centre social. À la fin de l'inspiration, la déflagration. « Va-t'en !» de la voix et du geste. Celle qui s'est portée volontaire pour figurer l'agresseur recule d'un pas et signe. « Ok, ok, j'ai compris. » Elle ressentit les vibrations du cri qui a percuté les murs. On se regarde interloqué. Comment arrive-t-elle à tenir un tel regard? Et cette explosion d'un corps tout entier en un cri, une onde si profonde. La première riposte montrée par la formatrice est toujours une surprise. Et après, il y a Lou, 36 ans, qui témoigne par rapport à ça. Et elle dit « On est rentré dans le corps, petit à petit. Le cri de pouvoir, dès le début, ça c'était une grosse claque. Parce que tu te rends compte que tes attentes vont être déviées. Tu n'es pas du tout en train d'apprendre à faire la super karatéka, mais à voir comment ton corps est puissant, au-delà de tout ce que tu soupçonnes. » La formatrice a galéré pour nous faire crier, mais peu à peu, c'est monté en puissance. Je regrette qu'on ne le fasse pas plus souvent. Il faudrait organiser des sessions de cri dans les bois. Moi, c'est Mathilde. Bah, je signe de mon nom, Mathilde Bléza. Voilà, rien de très original. Moi, ça fait très longtemps que je suis dans les milieux militants, féministe, mais pas que, aussi anticapitaliste, enfin, sur plein de luttes. Et par ailleurs, petit à petit, bah, je suis devenue journaliste indépendante et autrice. Parce que en fait l'écrit, enfin du coup de production écrite, c'est vraiment là où je me sens à l'aise, quoi. Enfin, pas dans les autres médias, mais dans l'écrit. Et pour moi, je suis vraiment venue, voilà, dans l'idée, comme plein de monde, de diffuser les luttes, de diffuser des critiques de la société, de faire parler des gens qui apparaissent pas dans les livres. Enfin, en fait, ce métier-là, je le fais pour ça.
On va resserrer l'angle sur ton dernier objet, on va dire, de travail, qui est ce livre, pour l'autodéfense féministe. Bah, du coup, tiens, c'est quoi pour toi l'autodéfense féministe?
Ah, l'autodéfense féministe, c'est une grande découverte pour moi. Enfin, je ne l'ai pas découvert maintenant, hein, il y a quelques années, mais ça a d'abord été une grande découverte qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a pas mal chamboulée, alors que j'étais féministe depuis longtemps déjà, et militante. Donc c'est d'abord ça, c'est pour ça aussi dans ce livre, j'ai voulu un peu décrire ce que c'est, parce qu'il y a beaucoup de mythes autour de l'autodéfense féministe. Enfin voilà, le terme autodéfense, il fait très, en gros, je vais faire un cliché, mais karaté du coup riposte physique, être une meuf super sûre d'elle, hyper en forme, etc. Alors que justement c'est pas ça, et que l'autodéfense féministe, c'est vraiment une pratique de prévention de violences patriarcales ou faites aux femmes ou fondées sur le genre, qui englobe une palette d'outils hyper variés, qui permet en fait à chacune de s'approprier, de choisir aussi ses outils selon la situation donnée, alors que ce soit de l'autodéfense verbale, de la riposte verbale ou physique. Mais aussi, la première chose, c'est l'autodéfense mentale, c'est-à-dire, surtout si on a été socialisé comme une fille, assignée fille, on nous a beaucoup dit qu'on était incapable de se défendre et qu'on n'en avait pas vraiment le droit. La première chose de l'autodéfense féministe, c'est sortir de ce truc, avoir un espèce de déclic, de se dire, c'est faisable, il y a des choses possibles à faire. Et aussi, j'ai le droit de vivre sans violence. Donc de mettre fin à des choses, quelles qu'elles soient, en fait, où je me sens agressée. Un peu à rebours des clichés, dans l'autodéfense féministe, dans les assos, par exemple, qui font des stages d'autodéfense féministe, il y a beaucoup de choses autour de savoir repérer ses limites, savoir les écouter, et du coup de mettre fin assez rapidement à des violences, plutôt que ne pas s'écouter et que les choses empirent, ou être dans l'escalade un peu viriliste ok, il faut gagner un combat physique, alors je vais lui péter la gueule, il va me péter la gueule, enfin voilà. C'était aussi, enfin, l'idée, c'était voilà, vraiment de décrire ce que c'est par rapport à un imaginaire. Autodéfense plus féministe, ces deux termes véhiculent un imaginaire particulier. Et par ailleurs, la question du self-défense, l'autodéfense, ou du sport de combat, etc., qui véhicule un autre imaginaire qui est très physique et viriliste finalement.
Comment tu l'as écrit ce livre? C'est une enquête, c'est des observations, tu l'expliquerais comment un peu?
C'est une enquête, c'est-à-dire que j'ai fait une enquête. Moi, j'avais déjà écrit des choses sur l'autodéfense féministe par ailleurs. Et dans Notre corps nous-mêmes, j'avais fait un peu la partie manuelle, vu que c'est un manuel, essayer de lister des types de techniques d'autodéfense. Là, l'idée, c'est vraiment de faire une enquête. Et moi, le point de départ de mon enquête, c'était... j'ai envie de parler des assos qui proposent ça à toutes les femmes. Enfin, voilà, pas forcément l'autodéfense autogérée qui peut se pratiquer dans des milieux féministes. Mais voilà, les associations qui veulent, dans un objectif de lutte contre le patriarcat, de proposer ça à toutes. Et du coup, ma question, c'était, est-ce que réellement ça a des effets positifs sur toutes, ou est-ce que c'est les personnes qui me ressemblent? Parce que moi, j'ai adoré le stage d'autodéfense que j'ai fait le premier en 2016. Mais voilà, est-ce que c'est réellement accessible à toutes? Et donc moi, mon enquête, c'était à la fois de faire connaître l'autodéfense féministe, comment ça fonctionne, parce que c'est très peu subventionné et soutenu en France, parce qu'en gros, au niveau pouvoir public, on n'intervient que sur après les agressions, quand on intervient, bien entendu. Mais aussi, donc à la fois pour faire connaître la pratique, mais aussi pour tester est-ce que c'est accessible à toutes, est-ce que ça parle à toutes. Et donc dans cette enquête là c'était d'aller voir les assos, de voir comment elles travaillent, de voir quel est l'environnement presque institutionnel, je dirais, politique de l'autodéfense en France, mais aussi chercher des participantes à des stages qui ont des profils très variés, et vraiment me tenir à ça, de dire pour qu'il y ait une variété de personnes qui puissent s'exprimer dans ce livre et puissent dire ce que ça lui a fait, l'autodéfense féministe. Donc j'ai fait beaucoup d'interviews, à la fois avec donc des formatrices d'autodéfense, mais aussi avec des dizaines de personnes, qu'elles soient des adolescentes, des femmes âgées, des femmes blanches, noires, arabes, latinos, des femmes trans ou cis, lesbiennes, bi, enfin... Voilà, et aussi qui ont différents handicaps, qu'elles soient en fauteuil roulant, qu'elles soient sourdes, etc., en situation de handicap intellectuel, et tout, pour voir aussi comment l'autodéfense prend vraiment en compte les différentes dominations qu'on peut subir, et voilà, donne des outils d'émancipation à des personnes variées, quoi. Donc c'était quand même vraiment une enquête autour d'interviews, et après j'ai fait une enquête un peu de recherche historique sur l'histoire du mouvement, d'où ça vient, etc. Et des recherches un peu statistiques sur les violences et sur les effets de l'autodéfense.
C'est quoi ton lien avec l'autodéfense? C'est ce que t'as commencé à raconter un peu tout à l'heure. T'as fait un stage en 2014. C'est à travers ton entrée, c'est à travers toi en tant que participante, c'est ça?
Ouais, moi, c'est-à-dire que j'ai fait un stage en 2016 à Marseille. À l'époque, l'association, elle s'appelait La Trousse à Outils. Maintenant, il y a deux associations. Et mon envie de travailler sur ce sujet, ça a vraiment été ce stage, parce que je me suis dit, mais merde, c'est pas possible que ce soit si méconnu, que typiquement que les jeunes filles d'aujourd'hui, elles sont encore privées des outils d'autodéfense qui sont simples, en fait. C'est-à-dire que dans les stages, on pratique des choses qui sont faciles d'accès, simples d'accès, efficaces, qui ne demandent pas une capacité physique plus qu'une autre. Confronter ça aux statistiques sur les violences, qui sont toujours énormissimes. Enfin, c'est moi, ce que j'ai recensé là, c'est des statistiques d'État, hein. 580 000 femmes par an qui sont victimes de violences sexuelles, d'agressions sexuelles, c'est énorme, c'est plus qu'un demi-million. Savoir que les viols, ils sont à 40% subis avant l'âge de 15 ans, enfin, tous ces chiffres-là qui sont juste hallucinants, et de l'autre côté, on n'a rien sur la prévention. Et donc moi, ça me révolte beaucoup, c'est-à-dire que même par rapport aux jeunes générations, les seuls conseils qu'on a à leur donner, c'est des trucs d'injonction à ne pas faire, à ne pas sortir, à ne pas s'habiller comme ci, à ne pas boire, à ne pas ci et ça, qui sont sans effet, en fait, parce que les violences sont vécues partout. Et donc à la fois, c'est ce stage, et à la fois, c'est cette révolte face à un espèce d'état des lieux statique, en fait, sur cette question des violences. Je me suis dit, ça, c'est un bon outil. Ça fait partie. Il y a plusieurs outils, il faut aussi le dire. C'est pas que l'autodéfense féministe. Il faut
travailler sur les auteurs, il faut travailler sur le patriarcat et tout. Mais voilà, c'est un outil trop peu connu, à mon sens. Et qu'en attendant que la société change, ben en fait, il faut bien aussi qu'on puisse se défendre. Même si ce n'est pas notre faute, ce qu'on vit. Autant avoir des outils. Et donc, c'est vraiment ce stage-là. Après, j'ai fait d'autres stages et tout, mais ça a été un peu une révélation. Ce que disent beaucoup des personnes que j'ai interviewées par ailleurs. Qui est un effet un peu révélation quand tu fais ce stage pour la première fois.
Qui casse l'ambiance en soirée, la terreur avec qui on peut même plus rigoler, l'hystérie qui bouffe du mec au petit déjeuner. Je suis la sorcière au bûcher, je suis la menace qui fait la une de valeur, la dangereuse qui ne pense qu'à protéger ses sœurs. Je suis celle qui met la fachosphère en sueur. Qu'est-ce qu'il y a, tu crois que tu me fais? J'ai été rabaissé, humilié, agressé, frappé. J'ai été vilipendé, harcelé, cancelé, catcolé, insulté, touché contre mon gré. Si jamais je m'en remets, on doutera de ma vérité. J'ai été dégradé, déprécié, dénigré, écrasé, discrédité, méprisé, attaqué et blessé, toujours sous-estimé. Si jamais je l'ouvre pour témoigner, on chira sur ma vérité. Alors vas-y, allez. Qu'est-ce que tu crois pouvoir me faire qu'on m'ait pas déjà fait? Vas-y, allez. Crois bien qu'après tout ça, je suis prête à tout encaisser. Vas-y, allez. Ben quoi mon grand, qu'est-ce que t'attends? Le courage c'est maintenant. Et si jamais tu oses, c'est avec joie que je serai une martyre de la cause. La matriarche extrémiste ravageant l'écriture, la délinquante véhémente que craignent les ordures. Je crache ma haine des pourritures, je suis la gynocrate assoiffée de vengeance, présomption d'innocence contre légitime défiance. Je suis la folle castratrice avide de violence, bienvenue dans la résistance. J'ai été rabaissé, humilié, dénigré, écrasé, discrédité, harcelé, cancelé, méprisé, insulté et blessé. Tu peux toujours tenter de museler, rien ne pourra jamais m'arrêter. Tu crois pouvoir me faire qu'on m'ait pas déjà fait? Vas-y, allez. Crois bien qu'après tout ça, je suis prête à tout encaisser. Vas-y, allez. Ben quoi mon grand, qu'est-ce que t'attends? Le courage c'est maintenant. Et si jamais tu oses, c'est avec joie que je serai une martyre de la cause.
Est-ce que tout le monde est au courant? Si vous n'êtes pas au courant, c'est le moment d'être au courant. Voilà. Ok, moi je vais vous lire le flyer qui a été distribué pour cette manif. Puisque les femmes et minorisées de genre sont aussi fortement impactées par la réforme des retraites, puisque le combat contre le cis-sexisme, l'homophobie et la transphobie est encore organisée autour de la journée du 8 mars, journée de lutte internationale pour les droits des femmes et minorisées de genre. Pour donner de la visibilité, reprendre la parole, pour mettre en place des actions fortes et radicales, prendre de la place dans la rue. Parce qu'on a besoin de se réapproprier la ville, les rues, en particulier la nuit, un moment où nous sommes particulièrement agressés dans ces espaces. Parce que nous sommes majoritairement dans les emplois à temps partiel et morcelés, qu'on est de plus en plus précaires et qu'on n'en peut plus de ces réformes avilissantes. Parce qu'il est temps qu'on entende les femmes minorisées de genre, migrantes ou sans papier, impactées encore plus fort par ce système patriarcal et raciste. Parce que encore aujourd'hui, les violences sexistes et sexuelles, ainsi que les féminicides, sont toujours présents et il faut que cela cesse. Un exemple, parmi les hommes de 25 à 34 ans, près d'un quart estime qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. Parce qu'à Toulouse, la mairie est complice des LGBTQI-phobies. Et qu'on va continuer de s'organiser pour ne pas laisser l'extrême droite nous passer sous silence. Nous dénonçons la censure de la lecture drague organisée à la médiathèque sous l'influence des groupuscules fascistes. Parce qu'on refuse toute instrumentalisation de nos luttes par l'extrême droite. Alors pourquoi la mixité choisie meuf, trans, PD, bi, gwyn, queer et en questionnement? Parce qu'on veut du fun. Et que sans les mecs cis hétéros, l'ambiance est à la fête. Parce qu'on veut du fun et être en colère ensemble contre les violences sexistes, sexuelles, de genre, patriarcales et tous ces systèmes inégalitaires, capitalistes et autoritaires. Parce qu'on veut du fun et que faire l'expérience de la Delphité en mixité choisie nous donne de la force. Parce qu'on veut que ces espaces de fun se répandent et qu'on n'ait plus à faire ces tracts pour expliquer la mixité choisie. Le patriarcat ne s'effondrera pas tout seul, alors piétinons-le !
Moi, je m'imagine autrement. Je m'imagine que peut-être j'aurai pas de mari et que je ferai pas d'enfant, que je vivrai libre, libre. Je serai libre et je voudrais encore et encore. Je serai sur un pouding.
Justement, la jauge habituelle des ateliers ou des stages d'autodéfense, ça tourne autour de combien de personnes à peu près?
Sur des formats courts, ça va être 10-12, autour de 10-12 personnes, selon aussi le groupe qui se mobilise et où on intervient, si c'est sur inscription individuelle ou dans des structures. On peut animer à partir de 5 ou 6 personnes, 6 personnes présentes, 5-6 personnes présentes. Et après, sur des formats plus longs, de stage un jour ou stage de 2 jours, on peut aller plus vers du 10, 12, 14.
Ouais. Du coup, on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y avait pas 14 personnes dans la chapelle. Donc comment vous en tant qu'animatrice d'autodéfense féministe, vous avez vécu ce moment-là d'animer pour, je ne sais pas, entre 50 et 100 personnes dans la salle? Comment vous vous sentez déjà par rapport à ça?
Là, après, c'est très étrange parce que aussi il y avait le nombre de personnes, mais il y avait le fait d'être face au groupe et pas avec le groupe, au milieu du groupe, d'être sur l'estrade pour qu'on nous voit exécuter les gestes, pour qu'on puisse avoir l'interprétariat LSF aussi, d'avoir les lumières, les micros. Donc, c'est une mise en scène complètement improbable pour de l'autodéfense féministe. Mais bon, voilà, c'était justement une optique de pouvoir le partager à beaucoup de personnes. Et moi personnellement, j'ai trouvé ça assez impressionnant, c'est de voir avoir en face une cinquantaine, centaine de personnes qui exécutent, qui refait les gestes, qui utilise le souffle, la voix, le cri, qui il y a cette énergie collective qui monte et à plein, ça fait une énergie incroyable quoi. Donc ça renvoie une force collective hyper impressionnante.
Oui, je rebondirai sur le mot impressionnant. Moi, individuellement, c'était beaucoup d'appréhension sur la première fois pour ce type d'atelier. Et assez déstabilisé au début par tout ce que nommait Anna, en quoi c'est différent d'être un autre niveau, estrade, pas dans le groupe, il y a une masse de personnes et du coup c'est difficile individuellement d'avoir une attention à toutes les personnes présentes. Du coup on s'était préparé avant pour poser un cadre pour que ce soit au plus clair possible et que les personnes aussi sont actrices aussi du soin d'elles-mêmes et des autres. Du coup, ouais, c'était un peu wow. Au début, moi, c'était un peu oula. Il y a beaucoup de gens. Comment on va faire pour qu'il n'y ait personne qui se fasse mal? Mais après, c'est faire confiance aux personnes et à cette attention à soi, aux autres, la bienveillance qui était hyper chouette et qui est hyper forte et qui se passe en petits groupes, qui s'est passée en grands groupes. Donc, il y a eu comme un lâcher-prise par rapport à ça en tant qu'animatrice, moi, personnellement, avec ce... Ouais, la confiance, c'est ce truc fort de prendre beaucoup de cette énergie et attention collective qui était vraiment magique. C'était hyper chouette. Mm-hmm. Et porteuse.
Et du coup, là, vous vous sentez comment après cette heure et demie assez intense, j'imagine, pour vous et spectaculaire, j'ai envie de dire. Mm-hmm.
Moi, je suis flottante, encore dans un état un peu second. ce qui est le cas aussi en fin d'atelier et de stage, c'est fort ce qu'on vit à l'intérieur avec son corps dans sa tête. Et c'est assez inédit à chaque fois. Enfin, à chaque fois, c'est différent. Et du coup, il y a toujours une espèce de flottement et d'état second pour moi qui est... énergisant et rempli d'optimisme et des petites paillettes dans les yeux. Et à la fois un état de flottement, un peu fatigue de corps et de mental. Voilà, c'est un peu double comme ça.
Ouais, c'est totalement ça. Et je pense que c'est ça, entre épuisement, un peu se sentir vidé, un peu se sentir... et en même temps vidé et en même temps rempli d'énergie, l'énergie qui s'est dégagée collectivement, du coup de se sentir, c'est ça, un peu flottante, un peu wow, qu'est-ce qui se passe, faut que je réatterrisse, ce mix d'émotions et de sensations quoi. C'est rare d'avoir des journées un peu publiques, collectives, comme ça, de partage autour de l'autodéfense. C'est rare et c'est génial d'en avoir, et donc ça motive, ça fait rencontrer plein de gens, ça donne plein d'énergie et ça montre qu'on peut partager beaucoup de choses autour de l'autodéfense féministe. Donc, à chaud, juste hyper contente qu'on ait pu collectivement reconstruire cette journée et la vivre, la partager et qu'il y ait toutes ces belles énergies qui se soient mobilisées pour ça.
Ouais, qu'il y ait plus d'autodéfense féministe partout.
Povekoje, ampadimo, da spedas se anda. Que je ne suis pas quelqu'un de très, très inquiète de base. J'ai quand même plutôt l'habitude de voyager seule, de faire du stop. C'est un peu des clichés, hein, mais d'aller un peu à l'aventure. Et j'ai jamais été trop en stress de ça. Mais là, j'avoue qu'après le stage, ça m'a renforcée dans une sécurité presque en me disant « Bon, ben, je vais continuer à faire ce que je faisais déjà, mais je sais que si jamais je me retrouve en galère, j'ai quand même des clés que j'avais pas prévues qui pourront certainement me sauver ou en tout cas éviter que ça soit trop la merde, quoi.
Dans la manière dont vous avez parlé pendant le stage de comment on fixe des limites, est-ce que toi t'as retrouvé des choses que dans ta vie, peut-être t'as la trentaine environ,
ouais,
que dans ta vie t'avais déjà appris par toi-même ou par en dehors d'un truc formel d'autodéfense, quoi.
Oui, il y a des choses qui sont assez intuitives, j'ai envie de dire, justement des distances physiques qu'on peut avoir avec les gens, en fait. Parfois, on sent très vite dans la vie de tous les jours qu'il y a quelqu'un qui nous parle à 3 cm du visage. Il y a un moment où on sent que ça a dépassé une limite, en fait, où c'est trop proche de nous, où il y a un malaise qui se fait sentir, mais on n'arrive pas forcément tout de suite à comprendre ce que c'est, mais en vieillissant, justement, on l'identifie plus jeune, pas forcément. Mais là, on se dit, ah ouais, non, en fait, cette situation, elle me met mal à l'aise, c'est pas normal. Du coup, il y a un truc qui est pas net, même si il y a encore pas si longtemps que ça, j'ai été dans un enterrement, alors vraiment, je m'y attendais pas à ce moment-là, et donc un homme que je reconnais de loin, que je me dis, il me dit quelque chose, ce mec, mais je sais pas vraiment, donc on se salue, je dis, on se connaît, mais il me dit, oui, on s'est vu quand t'étais petite, j'étais un ami, justement, de la personne qui était décédée, et donc pour moi, je me dis, ok, ça se met dans c'est quelqu'un qui pourrait presque avoir l'âge de mon père, c'est familial, on est là autour d'un décès, et qui, finalement, au moment où j'allais partir, m'interpelle et me dit, je sais plus c'était quoi la tournure de la phrase, mais du genre, t'es vraiment une très belle femme, ben, je sais pas, mais la façon dont il me l'a dit, j'ai trouvé ça mais complètement mais abusé, en fait, ça a créé en moi un endroit où j'ai fait gloups, et je me suis dit, bon, ben en fait, cette parole, elle est pas ok comme ça. J'ai identifié directement que c'était pas. Il avait pas à me dire ça, en fait. C'était complètement délirant qu'il me sorte ça à ce moment-là. Et du coup, ça rappelle à ce moment-là, effectivement, des moments au stage où on se dit, ah, qu'est-ce que ça procure chez moi ? Ça me fait un truc où je me sens un peu devenir rouge, ou ça me serre au ventre, ou au niveau de la poitrine. Et là, tu te dis, ok, bon. Si un jour, et là pour le coup j'ai rien réussi à dire, en fait j'étais en train de partir et je suis partie comme ça, et ça j'y repense assez souvent en me disant, ça serait bien qu'un jour peut-être j'arrive à lui écrire, ou que si je le recroise j'ai préparé ce que j'avais à lui dire, et que c'était pas ok en fait de me balancer ça, parce qu'en plus il a insisté, j'ai fait genre comme on fait un peu quand on est gêné, et il a vraiment dit non mais vraiment, j'étais là mais genre stop quoi. Enfin voilà, et du coup effectivement là j'ai repensé à ce qu'on avait traversé au stage, et ce que ça avait laissé en moi, et de me dire que j'avais envie de pouvoir lui dire que c'était pas ok en fait de dire ça. Mais c'est sûr que ça a une double facette, quoi. À la fois de se dire j'aimerais bien réagir, et à la fois je me souviens que quand même l'intervenante nous a dit aussi, il y a un peu des fois on se dit bah, fuir, on a l'impression d'être lâche, de ne pas avoir réagi comme il faut, et qu'elle nous a quand même bien répété en fait, non, c'est une solution de défense, la fuite en fait. Tu t'écartes du danger et c'est pas, t'as pas mal fait de fuir, ou tu ne pas culpabiliser, ça elle nous l'a redit plusieurs fois justement, de ne pas avoir répondu un truc ou de ne pas avoir dit. Mais malgré tout, c'est vrai qu'on a un peu quelque chose au fond de nous qui nous dit bah, si on a envie que ça avance aussi, c'est un peu notre parole qui fait ça, parce que personne ne le fait vraiment à notre place sinon, quoi. Non, mais ça me fait penser du coup à l'expo qu'on est en train de préparer, où on travaille justement sur des choses qui ont été dites à des femmes par des hommes dans l'espace public. Donc on est en train de travailler avec une amie sur une exposition sonore, vidéo et plastique. Qui va sortir le 7, 8 et 10 mai au Motor. Et donc on est parti de choses qui ont été dites à des femmes par des hommes dans l'espace public. On dit choses parce que, bah parce que parfois ce sont des insultes, parfois ce sont juste des... C'est même pas des phrases, c'est même pas des mots. Des fois c'est juste... quelque chose d'hyper violent qui est physique mais qui n'est pas forcément verbal. Bon, et du coup, on a fait un grand repas où on a rassemblé une trentaine de femmes et où on leur a demandé de nous partager justement ce qu'elles avaient reçu, ce qu'on leur avait dit. Nous, on a noté pendant ce temps plein de choses. Et donc à partir de là, on a voulu en faire une sorte de... traduction plastique, on va dire, vidéo, de ce que nous, ça nous faisait, ou de comment on avait envie de se réapproprier cette parole. L'expo, ça s'appelle « Toi, t'es trop belle, j'ai envie de te mettre dans un aquarium ». Et c'est le 7, 8 et 10 mai au Motor.
J'ai l'impression que à la fois il y a un côté où c'est une culture orale, et à la fois il y a des côtés aussi où il y a des questions de confidentialité, et du coup on se posait aussi un peu la question de comment à un moment donné on écrit sur un objet qui est oral et par plein de bouts aussi confidentiel. Comment t'as dealé avec ça?
C'est une très bonne question. Moi j'étais assez au courant de ces débats-là sur la confidentialité. Du coup j'ai écrit mon livre d'une façon où en fait je pense que quelqu'un qui connaît pas a une idée de ce que c'est, c'est-à-dire que je décris un peu comment ça se passe, mais je donne pas de détails sur les techniques d'autodéfense. Après, des fois dans des témoignages, une personne va dire qu'elle a fait ci ou ça, mais l'idée c'est de pas dévoiler les secrets un peu des stages, parce qu'il y a aussi des rituels collectifs, il y a aussi des choses qui sont faites qui donnent beaucoup de pouvoir, de puissance, mais voilà, que c'est bien que ce soit pas trop diffusé. Après, en discutant aussi avec les formatrices d'autodéfense, il y en a qui vont dire quand même que, par exemple, tout ce qui est riposte physique, en vrai, la classe des agresseurs, hein, pour le faire très vite fait, les hommes en général, je veux dire, c'est pas des choses qui leur sont inconnues. Il n'y a pas un énorme secret autour de comment on donne un coup de poing. Globalement, en fait, c'est... Les agresseurs font aussi des sports de combat, sont aussi bagarrés dans la récré, enfin plutôt plus que nous, quoi. Et du coup, il n'y a pas non plus un secret absolu autour de ça, tout comme des ripostes physiques, verbales, pardon. Et que de toute façon, en fait, le plus important à l'autodéfense, c'est l'effet de surprise, c'est-à-dire prendre à contre-pied la personne qui nous agresse pour faire cesser l'agression. Et que ça, oui, ça, c'est un peu confidentiel, sur des trucs de surprise. Et les trucs de surprise, ils se jouent beaucoup sur... le fait que les agresseurs, les personnes qui agressent, eh ben en fait, elles ont une idée reçue de comment on va réagir, selon qui on est. Et qu'en fait, si on réagit autrement, ben ça le met en effet de surprise. Typiquement, ils vont avoir l'impression que des femmes vont réagir d'une façon un peu stéréotypée dans une agression donnée. Et en fait, si on utilise d'autres outils, Bah, va être surpris. Et je pense qu'en vrai, des personnes dominantes, elles s'attendent pas à ce qu'on se défende. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a la confidentialité, mais je pense qu'on est encore loin le moment où ça va être... Enfin, ils vont se dire, elle va se défendre de telle ou telle manière. Voilà, je pense que, en fait, c'est un entre-deux quand même à trouver. Et donc, moi, j'ai pris ce parti-là de pas dévoiler, enfin de pas préciser des techniques. Après, il y en a, hein, il y a des podcasts qui en parlent. Dans Notre Corps Nous-Mêmes, on en a aussi parlé. Il y a des jeux d'autodéfense féministe, enfin pour les femmes. Donc ça circule un peu.
Dans ton livre, t'as pas mal de parties sur des histoires de réussite. Est-ce que tu peux nous en dire un mot justement, parce que c'est justement tu dévoiles aussi des histoires de réussite. Et dans l'autodéfense féministe, on dévoile les histoires de réussite parce que ça fait partie du truc de puissance dont tu parlais. Est-ce que tu peux en dire un peu plus?
Ouais, c'est vrai que ça, c'est sur la forme un peu du livre. Moi, j'ai fait le choix, en fait, de faire un texte un peu en mode journalistique, c'est-à-dire enquête, ou enfin voilà, écrit avec des chapitres et on suit des personnes, hein, et leur vécu avec leurs citations. Et j'ai voulu aussi introduire une autre manière d'entrer dans le livre, par plutôt des citations courtes de témoignages. Donc entre les chapitres, il y a les histoires de réussite de différentes personnes qui m'ont envoyé et que je n'ai pas forcément interviewé plus longuement. Parce que voilà, ça donne aussi une autre manière, selon comment on a envie de lire ou notre rapport à la lecture, je trouve que ça donne aussi d'autres informations et d'autres entrées dans le livre. Par des citations courtes où une telle va dire moi j'étais au travail, il s'est passé ça et donc j'ai dit ça et voilà, enfin avec le nom de la personne et son âge, tout comme j'ai fait aussi un autre endroit où c'est les vécus du stage, comment les personnes ont vécu le stage, mais de manière brute comme ça, témoigner. Et ça c'est chouette aussi parce que ça montre qu'il y a plein, en fait, que l'autodéfense c'est plein de mini façons de faire, qu'il n'y a pas des grands schémas, mais que souvent on a l'impression que si on ne s'est pas défendu physiquement, enfin en gros on n'a pas cassé la gueule à quelqu'un, on ne s'est pas défendu et on va dire j'ai de la chance machin, alors qu'en fait c'est pas ça l'autodéfense, c'est s'enfuir si on sent un danger, c'est juste même dire non gentiment. Enfin, en fait, il y a plein de façons d'arrêter une agression. Et du coup, c'était aussi l'objectif de ces passages-là avec des histoires de réussite. C'est donner à voir différentes façons de se défendre selon les contextes, quoi. Parce qu'on n'est pas... On se sent pas forcément la motive... Enfin, selon qui on a en face de nous, en fait. C'est dans le cadre du travail ou avec un médecin, en fait, on peut avoir... des craintes justifiées à ne pas être dans une espèce d'énorme combat, afin de se défendre tout en se protégeant aussi, quoi.
Et ce livre, quand tu l'as écrit, est-ce que tu as pensé à un public en particulier, ou est-ce que tu avais un truc comme ça en tête, ou pas du tout
Si, quand même, faut pas se voiler la face. On a forcément... déjà, il y a des personnes qui lisent pas. Moi, dans l'idée, c'était de l'écrire de manière fluide, mais je sais très bien qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie, qui n'ont pas de rapport avec les livres, donc voilà. Au niveau du public, de personnes qui lisent, du coup, moi, je voulais que ça soit lisible par des personnes qui sont pas forcément féministes, même si elles titrent féministes dans le titre, enfin le mot féministe dans le titre, ou pas forcément des personnes qui connaissent bien. Et du coup, j'essaye d'avoir un truc assez pédagogique où, en fait, par la démonstration, en racontant des histoires, et les gens, en fait, ils adhèrent au truc. Mais typiquement, pour les personnes qui disent « Ah, la non-mixité, c'est trop pourri. Ah, l'intersectionnalité, c'est... » Ou le genre, c'est gros wokiste, militant, machin. Mais que du coup, en fait, par la démonstration, en montrant que ce que fait l'intersectionnalité, la mixité choisie notamment... comme dispositif, ce que ça provoque, et les gens se disent ah oui, en fait c'est intéressant, enfin voilà. Moi, c'est des retours que j'ai eu par exemple de personnes qui connaissent rien ou qui sont contre parce qu'il y a un gros délire autour de la mixité choisie et qui disent ah j'ai compris là que ça, pourquoi c'était utile, enfin comme outil. Donc l'idée, c'était quand même à la fois de parler à des gens qui connaissent pas, de parler éventuellement à des personnes en charge de subventions ou d'autres, que les assos, par exemple, peuvent se servir de cet outil-là pour faire connaître, faire expliquer leurs pratiques etc. Et aussi pour les assos, pour écrire cette histoire féministe, comme beaucoup d'histoires féministes qui sont inconnues, faire exister leur parcours, leur engagement. Et voilà, enfin, c'est aussi pour le milieu militant par ailleurs, quoi.
Et tu peux nous dire, il est édité où et...
Ouais. C'est édité par les éditions de La Dernière Lettre, qui est une petite maison d'édition indépendante, qui édite aussi la revue Z pour les personnes qui connaissent.
Aujourd'hui, on est le 1er mai, donc gros big up à toutes les exploitées, travailleuses, chômeuses, qui ont pris la rue sur le mouvement des retraites.
Il n'y aura pas de révolution sans les féministes.
Certes, les casseroles, ça sert à cuisiner, mais si on peut emmerder 2-3 masques au passage, on s'en privera pas.
Donc on se retrouve bientôt sur les barricades.
La patriarcat au feu, et les patrons au milieu, patriarcat au feu. Et les patrons au milieu.